Donc, merci beaucoup François Bourguignon pour cette conférence extrêmement intéressante et précise sur des enjeux très, très grands, très importants. Je laisse maintenant la parole à Alain Sand pour établir un commentaire de cette conférence avant de laisser la discussion à la salle. Juste pour vous dire qu'Alain Sand est, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur d'économie à Lyon 2 à l'ENS, économiste à l'OFCE, et spécialiste de macroéconomie, en particulier spécialiste de l'Amérique latine.
Alors, on m'a demandé, ça s'entend là, oui. On m'a demandé donc d'intervenir avec, après François Bourguignon pour animer cette discussion. C'est difficile parce que son talent est incommensurable, et moi, je n'ai pas honte de dire qu'il fut l'un de mes mentors. c'est difficile aussi parce qu'il a joué la pièce, parce que c'est une pièce en quelque sorte, en tenant successivement le rôle des pros et des cons. Et je crois que tu avais été auteur dramatique dans ta jeunesse, et on retrouve là le talent de l'auteur dramatique. Tu as bouclé la pièce. Alors j'ai pensé qu'il était peut-être souhaitable de se mettre sur une autre planète, celle du citoyen, et pour mettre un peu de poil à gratter dans cette discussion, tu l'as introduit en partie, là aussi, mais enfin, je vais mettre ma pierre. Après tout, c'est en dernier sort aux citoyens de se poser le problème de l'utilité des organisations internationales. Je parlerai peu des experts et chercheurs, peut-être parce que ce sont toujours des collègues et souvent des amis. Je vais chercher par contre à élargir aussi, tu t'es focalisé sur ce que tu connais le mieux, effectivement, même si tu connais tout le spectre, hein, et plutôt la Banque mondiale, comme pour exemplifier quoi, au mieux la discussion. Je crois qu'on peut élargir la discussion aussi, et je voudrais focaliser sur les problèmes de gouvernance des institutions internationales. Et je voudrais reprendre partir du titre de la conférence, le pouvoir des organisations internationales sur le développement, illusion ou réalité. Alors je ne sais pas si la question du caractère illusoire ou non du pouvoir des institutions internationales a un sens. Les illusions sont des productions sociales, elles participent comme telles à l'organisation du monde réel, avec une certaine efficacité. Donc elles sont dans la réalité. C'est ce que Freud, à propos des religions, rappelait donc dans l'avenir d'une illusion. Pour continuer dans la même veine, c'est bien d'une illusion, ou plutôt d'utopie, que sont nées les institutions internationales les plus symboliques, à savoir des utopies pacifistes. C'est vraiment le désir de paix qui a présidé à la création de la SDN, qui a probablement donc présidé aussi à la création de l'ONU, parce que la SDN avait échoué justement. Échoué dans quoi ? Dans la paix, hein, justement, dans le maintien de la paix. C'est dans la feuille de route des institutions de Washington, au départ aussi. Incontestablement. Il s'est donc passé quelque chose. L'ONU s'est démultipliée à travers... quand je dis qu'il s'est passé quelque chose, c'est que ce n'est pas purement illusoire. On n'est pas dans l'illusion. L'ONU s'est démultipliée à travers la FAO pour l'alimentation, l'ONU dit, le PNUD, la CNUSET, je veux dire. Je ne vais pas détailler, tu as détaillé certaines institutions, je ne vais pas détailler les autres. Hein. Du côté du FMI, donc la Banque mondiale, l'AID, j'ai gardé le terme. La SFI, la Société financière internationale, plus indépendante naturellement, une autre institution relativement récente, l'OMC, qui vise à encourager le libre commerce, mais explicitement, encore une fois, au service de la paix et du développement. Il y a bien la recherche d'une utopie derrière qui justifie en quelque sorte le caractère opérationnel, enfin l'action de ces institutions. Et depuis peu, donc, à côté de la paix, on a mis en premier plan aussi le développement soutenable, préservant les conditions d'existence des générations futures. Bon, il faut ajouter à ces institutions, les institutions régionales, hein, pourquoi les exclure, hein, elles participent aussi, sur les institutions internationales, et elles participent naturellement à cet objectif à la fois de pacification et de développement. L'OUA, sur le plan politique... en Afrique, mais surtout donc la BAD aussi, qui est une institution internationale, on va dire, la Banque africaine de développement, l'OEA, je vais l'appeler comme ça pour la distinguer de l'autre, plutôt donc en français, l'Organisation des États américains, et la BIAD, qui est la Banque de développement de l'Amérique latine, la Banque asiatique de développement. En bref, le problème n'est pas de nier que les institutions internationales soient une réalité active. L'argent mobilisé témoigne de leur participation à la vie économique internationale. Le problème est plutôt, ont-elles fait ce qu'il fallait faire ? Donc on va reposer la question différemment.
Autrement dit, les institutions internationales ont-elles permis de faire qu'il y ait plus de bien-être, moins de misère, moins d'inégalités, moins d'injustice dans le monde?
Tu as montré déjà, comme tu as fait tout le pour et le contre, que ce n'était pas mesurable. Mais on va donner quelques idées quand même autour de ces problèmes. En longue durée, on dispose au moins d'une expérience bimillénaire de l'une des plus vieilles institutions internationales, hein, consacrée à l'extension du règne de Dieu sur Terre, le Vatican, hein, pour plus de justice, plus de paix dans le monde. Je ne suis pas sûr que les résultats soient probants. Enfin, on peut discuter. Si l'on se borne au monde contemporain, dans une économie globalisée, les institutions internationales se substituent de plus en plus aux États comme mécanisme de coordination et de régulation. Mais elles n'ont aucune légitimité démocratique, représentent des États caractérisés pour la plupart par un fort déficit démocratique et donnant un poids de toute manière déterminant aux plus puissants de ces États, mais les autres ne méritent pas forcément d'avoir plus de pouvoir. Elles ne disposent pas des moyens d'imposer leurs décisions par rapport aux États, hein, les États nationaux disposant seuls du monopole de la violence légitime. Les lobbies économiques y disposent de relais déterminants et pèsent souvent plus que les États nationaux. Alors, on ne peut nier que ponctuellement, il y ait eu des actions significatives et efficaces. Et justement, Stiglitz, contempteur des institutions de Washington, dresse une liste qui exonère largement la Banque mondiale. Et tu as montré que la Banque mondiale, effectivement, avait eu des actions par le type de projet qu'elle soutient. Mais si on fait un bilan global, elles ont toutes les chances de partager la co-responsabilité des plaies des sociétés mondiales. Corruption, violence, injustice, exploitation. On peut voir sur ce plan... l'article, moi j'ai trouvé passionnant l'article d'Arnaud Meyer dans Le Monde, Le cancer de la corruption, hein, qui montre l'étendue de la corruption dans le monde et la manière dont la corruption pénètre l'ensemble des institutions économiques et politiques. Alors si par miracle ce n'est pas le cas, et je pense que ce n'est pas toujours le cas des institutions internationales, elles ont peu de pouvoir pour modifier le cours des choses. Alors que faire? Ben, il existe des contre-pouvoirs, encore balbutiants, les ONG, et je demande de... en particulier donc à François, s'il pense que ces contre-pouvoirs peuvent contrebalancer les forces du mal, et comment peuvent-elles en particulier trouver dans les organisations existantes et dans les organisations à créer les leviers du changement?
Très bien. Donc peut-être François Bourguignon veut répondre, et ensuite vos questions seront les bienvenues.
Oui, Alain. Des questions tellement gigantesques que je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Simplement de quelques remarques sur ses propres remarques. Quand on parle d'utopie, s'agissant des organismes internationaux, s'agissant de la paix, la diminution de la pauvreté, du développement, je ne suis pas sûr qu'on puisse facilement faire la distinction entre l'utopie, l'éthique et l'économie politique. Je crois que une grande partie de l'activité des organismes internationaux, si elles sont téléguidées par les pays les plus riches et éventuellement les institutions, les multinationales les plus riches, en partie sont de nature d'économie politique, sont destinées à maintenir un équilibre dans le monde tel que un certain nombre d'activités restent possibles. Et de ce point de vue-là, c'est assez difficile de faire la distinction qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est économique, qu'est-ce qui est intéressé. Tu as fait référence à l'histoire du catholicisme. Je pense qu'on peut se poser la question depuis le début sur le rôle de l'Église. Est-ce que le rôle de l'Église était un rôle éthique, moral? Ou est-ce qu'il n'a pas eu une composante séculière d'économie politique importante au cours du temps? Les mêmes questions se posent aujourd'hui. J'ai bien aimé ton exemple de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. De nouveau, je ne suis pas sûr que l'OMC essaye de promouvoir la paix. L'OMC, de façon complètement explicite, essaye de promouvoir de l'efficacité économique à travers le libre-échange. Et avec derrière un credo qui est bien de dire, si on élimine les barrières douanières, à la fin des fins, on sait que pour l'économie mondiale, il y aura forcément un gain. Tout le problème est éventuellement d'être sûr que ce gain sera partagé de façon relativement équitable entre les différents partenaires. Mais de ce point de vue-là, l'OMC, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos d'autres organismes dépendants des Nations Unies, c'est bien un lieu de négociation, un lieu de dialogue dans lequel on essaye d'exploiter au maximum ce qu'on peut appeler un bien public mondial, c'est-à-dire quelque chose qui va effectivement avantager l'ensemble de la population mondiale. De ce point de vue-là, je pense que le rôle est un peu différent du rôle d'organismes qui sont sur le terrain et qui font effectivement du financement. Quand on parle de la démocratie dans les organismes internationaux, je pense que ça, c'est une question qui est véritablement intéressante. Et encore une fois, c'est peut-être une des grandes différences qui existent entre les organismes, les institutions qui dépendent des Nations Unies et les institutions financières internationales. Il y a une démocratie dans les premières, dans la mesure où le système de décision, c'est un pays, un vote. Ce mode de décision est évidemment critiqué par un certain nombre de gens, qui disent que c'est à cause de ça que ces organismes ne fonctionnent pas, ou fonctionnent de façon inefficace. Alors que dans les institutions financières internationales, mode de décision, c'est $1 de produit intérieur, un vote. Enfin, même pas d'ailleurs, parce qu'il y a tout un débat justement pour dire qu'à l'heure actuelle, les pays émergents sont sous-représentés par rapport à leur contribution au revenu mondial. C'est vrai que l'aspect démocratique existe quand on essaye de revenir, comme tu l'as dit au début, aux citoyens à l'intérieur d'un pays, revenir un peu aux citoyens mondial, et se poser la question de savoir si ces organismes représentent une agrégation des préférences de ces citoyens mondiaux, et par quel canal est-ce que ça passe. Mais si on doit se limiter au côté démocratique, aux prises de décision dans les institutions internationales, il me semble que les statuts de ces institutions, c'est quelque chose d'important. Corruption, est-ce que c'est important? Évidemment que c'est important. C'est quelque chose de fondamental qui existe dans le développement de n'importe quel pays. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu extraordinaire de voir nos collègues américains dans les organismes internationaux se plaindre de la corruption dans les pays en développement, alors que toute la législation antitrust est née de la corruption absolument effroyable qu'il y avait ce qu'on appelle les robber barons aux États-Unis. Il y a à peine un siècle, c'était un phénomène extraordinairement important aux États-Unis. On peut imaginer que c'est un problème qui est encore important dans beaucoup de sociétés en développement. Donc je ne crois pas qu'il faille simplement se plaindre du fait qu'il existe de la corruption, dire à cause de ça on ne peut rien faire. Je crois qu'il faut prendre ce problème à bras le corps et se poser la question de la meilleure façon de lutter contre la corruption. Il y a des progrès qui ont été faits. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment dans le cadre de la procédure d'allègement de la dette ou d'effacement de la dette des pays pauvres très endettés, ce qu'on appelait l'initiative PPTE. Il y avait une clause pour que les pays, finalement, voient leur dette complètement effacée, qui était une clause de transparence financière, qui était une clause d'audit des comptes publics du pays considéré. Dans la plupart de ces pays-là, on connaît un budget qui est voté, donc on connaît les intentions de dépenses d'un gouvernement, on ne sait pas comment le budget a été exécuté. Dans ces pays-là, on a introduit un budget exécuté, et ça contribue énormément à la transparence. Alors on peut évidemment dire que ce budget lui-même peut être trafiqué, ce n'est pas du tout à exclure, mais il y a des progrès qui sont faits, et je crois que tout progrès qui va dans la direction de la transparence des opérations financières est quelque chose qui va dans le bon sens. Par contre, là où je crois que ce que je voudrais souligner, c'est que la corruption à l'intérieur des organismes internationaux me semble extraordinairement limité. On connaît dans le cas des Nations Unies les opérations de pétrole contre nourriture, qui a tout de même été investiguée de façon approfondie. Du temps où j'étais à la Banque mondiale, il y a eu un ou deux cas de corruption dans lesquels effectivement, on avait le sentiment que du personnel de la banque avait été éventuellement lié à des entreprises qui avaient décroché des marchés sur des projets qui étaient financés par la banque. Et c'est extraordinairement limité et ça a été immédiatement, immédiatement repéré. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsque un organisme international comme la Banque mondiale finance un projet dans lequel on sait qu'il y a une opération de corruption. Donc on va donner à un gouvernement de l'argent pour construire, pour un programme immobilier, et on va découvrir qu'évidemment, le ministre du Logement a reçu une très grosse enveloppe de l'entreprise qui a, à la fin, décroché le contrat. Je suis désolé, mais ces problèmes, ils existent aussi en France. Ils existent au niveau local, ils existent au niveau national. Donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement original. De façon, d'ailleurs un effet qui est à mon avis un effet négatif de ça pour l'aide au développement, c'est le fait que progressivement les donateurs bilatéraux, les donateurs multilatéraux se sont retirés de ces opérations dans lesquelles ils pouvaient penser qu'il y avait beaucoup de corruption. L'aide au développement, l'aide publique au développement qui passe par les organismes multilatéraux, par les agences bilatérales de développement, aujourd'hui finance surtout de l'éducation, de la santé, des dépenses sociales. Presque plus de routes, presque plus de programmes de logement, simplement parce qu'on sait, on constate que la corruption, c'est à l'intérieur de ça qu'elle est concentrée. C'est aujourd'hui parce que les Chinois, les Indiens, les Brésiliens sont prêts à financer l'infrastructure directement qu'on se repose la question de savoir si ce ne serait pas une bonne chose d'être plus présent sur ces projets d'infrastructure. Finalement, la question des ONG, la remarque sur les ONG. Oui, les ONG peuvent participer au développement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous parlez d'une ONG dans ce cas-là, c'est une très grosse ONG. C'est une fondation, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui, effectivement, aujourd'hui est capable, en flux annuel, de financer des opérations pour, avec l'association avec Warren Buffett, ils doivent arriver maintenant à 18 milliards de dollars, ce qui représente pratiquement 15% de l'aide publique au développement des pays développés. C'est absolument considérable. Que ces gens aient un rôle important à jouer, oui, absolument, ils ont un rôle très important à jouer, parce qu'effectivement, on ne peut pas les taxer du même intérêt ou du même ethnocentrisme que d'autres donateurs. Cela étant, il ne simplifie pas non plus les choses, dans la mesure où la multiplicité des donateurs rend les choses plus complexes à gérer. Imaginez plusieurs donateurs essayant d'aider un pays à développer son système de santé. On voit très très bien qu'il va y avoir des recouvrements considérables entre les différents donateurs et que le pays bénéficiaire sera capable d'utiliser la concurrence entre les donateurs pour obtenir un gain supplémentaire. Donc je crois qu'il faut faire attention à ça. Cela étant, quand on parle des ONG de façon générale, ça revient au premier point quand on parlait d'utopie et finalement d'éthique. Qu'est-ce qui guide tout ça? Est-ce que c'est l'amour du prochain? Je crois qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les ONG sont des bureaucraties et qu'il y a des agents qui opèrent dans ces ONG qui ont un certain intérêt, un intérêt non pécuniaire, mais c'est un autre type d'intérêt. Est-ce que c'est uniquement l'intérêt ou la charité, la compassion, ou est-ce que c'est autre chose, une volonté d'apparaître d'une certaine façon? C'est quelque chose qui doit être pris en compte. Il y a, à l'heure actuelle, pas mal d'économistes qui travaillent sur la théorie des ONG pour montrer que leur comportement a une certaine prévisibilité dans certains domaines. Donc, voilà, je crois que ces remarques sont tout intéressantes. Encore une fois, je pense que chacune d'entre elles ouvre des abîmes de réflexion, mais en l'espace d'une heure ou une heure et demie, on n'avait certainement pas le temps de tout aborder. Alors, merci beaucoup.
Alors, merci, excusez-moi. Donc, merci de cette discussion. En fait, j'aurais voulu... désolé, on prendra les questions de la salle juste après. Mais dans la continuité de ce cycle, et de la question qui est les usages et les pratiques des usages de l'économie dans la décision publique. J'aurais voulu savoir, donc, Alain a dit que vous étiez un grand artiste, mais je veux que vous nous emmeniez dans les coulisses. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'un économiste en chef ? Parce que c'est vrai que c'est rare, un économiste en chef. Et en chef de quoi ? J'ai entendu parler d'un économiste en chef qui s'appelait Stiglitz et qui est sorti en claquant la porte et en écrivant un livre qui s'appelle La Grande Désillusion. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Banque mondiale ? Qu'est-ce qu'un économiste y fait ? Vous avez parlé de bureaucrates, qui sont-ils ? Et où est l'économiste, où est le bureaucrate, et où est sans doute, il y en a un, le politique dans la Banque mondiale.
Bon, je ne suis pas sûr que la notion de chef soit aussi importante que ça. Non, je crois que l'idée ou la connotation de l'économiste en chef, c'est simplement que la voie ou la réflexion économique de fond à l'intérieur de l'institution passe par l'économiste en chef ou passe par l'équipe que dirige l'économiste en chef. Il se trouve qu'à la Banque mondiale, l'économiste en chef a une équipe rapprochée, de réflexion qui est un peu au jour le jour, mais peut se reposer sur une équipe de recherche qui est tout à fait exceptionnelle, qui compte une centaine de personnes, de gens qui académiquement sont extrêmement pointus, et qui couvre à peu près la totalité des disciplines, des sous-disciplines qui sont à considérer dans l'économie du développement. Et donc, c'est un avantage absolument considérable, parce que dès qu'un débat apparaît sur la scène internationale, ou un débat apparaît à l'intérieur d'un pays sur l'intérêt d'une stratégie par rapport à une stratégie, l'économiste en chef peut se reposer sur ses équipes pour préparer quelque chose, pour préparer une réflexion, pour réfléchir avec ses équipes et donner une réponse ou des éléments de réponse qui lui semblent les meilleurs. La contribution de Joe Stiglitz à la Banque mondiale, Joe Stiglitz n'est pas parti en claquant la porte. D'abord, il n'est pas parti. S'il avait pu rester, il serait resté. On l'a fait partir. Au plus exactement, on a dit au président de la banque, si vous voulez rester président, ce serait bien de vous débarrasser de Joe Stiglitz. Et effectivement, c'est l'actionnaire, le plus gros actionnaire, qui a effectivement insisté pour que ça se passe de cette façon-là. Mais la grande critique de Joe Stiglitz, c'était plutôt vers le Fonds monétaire que vers la Banque mondiale. Cela étant, quand j'ai parlé tout à l'heure de ce problème de la bureaucratie, de ce problème de gérer une bureaucratie, je pense que c'est Stiglitz qui a vraiment commencé cette réflexion-là. Et d'un certain point de vue, je crois qu'il l'a plutôt... il a mal engagé la discussion. Je me souviens très bien, à cette époque-là, il m'avait demandé de venir passer quelques mois à Washington et donc d'être un peu son conseiller sur un certain nombre de choses. Et quand on avait discuté de l'après-Washington, le consensus de Washington, il avait expliqué cette idée qu'il est absolument évident que tout problème est spécifique et qu'un problème qui se pose d'une certaine façon dans un pays ne se posera pas de la même façon dans un autre pays et que donc il faut bannir ces règles d'uniformité des recommandations de la Banque mondiale. Et c'est moi qui lui ai dit, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le problème est que tu as affaire à des bureaucrates et qu'il faut arriver à trouver un moyen de leur faire partager cette vision des choses. Et aujourd'hui, la façon dont fonctionne l'institution ne se prête pas à ça. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a effectivement eu des frictions à l'intérieur de la banque vis-à-vis de Stiglitz, ça a été celle-là. Mais son message de base et sa réfutation du consensus de Washington est restée. Et avec le temps, elle s'est développée. Tout à l'heure, au séminaire précédent, quelqu'un parlait du fait que l'hétérodoxie devenait orthodoxe. C'est un petit peu ça. Stiglitz a introduit une certaine hétérodoxie dans la Banque mondiale. Cette hétérodoxie est maintenant passée dans les mœurs. Aujourd'hui, dire qu'il n'existe pas de règle absolue, en dehors de certains points complètement évidents, ne choque plus grand monde. Je ne suis pas sûr qu'on en ait tiré toutes les conséquences. Je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, ça a certainement été une de ces grandes contributions. Et j'ai aussi la veine de succéder, entre Joe Stiglitz et moi, il y a eu Nick Stern, qui partageait aussi les mêmes idées. Et il est aussi assez remarquable de voir que ce soit Stiglitz, Stern ou moi, on a tous été élevés comme économistes dans l'économie publique. On a tous une formation européenne par rapport à nos prédécesseurs. Et je pense que ça a correspondu véritablement à un tournant. Mais pour terminer sur ce que peut apporter un économiste en chef, je vais vous donner une petite anecdote. Le jour où j'étais nommé économiste en chef, immédiatement j'ai reçu la visite du département communication de la Banque mondiale. C'est un gros organisme, le côté communication et médiatique est très très important. Et les gens m'ont dit, tu as 24 heures pour nous dire quel est ton programme. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi facile que ça, qu'il valait mieux être préparé. Et effectivement, il a fallu en 24 heures, je me dise, bon, sur quoi est-ce que je vais communiquer? Quel est le message que je veux faire passer comme économiste en chef de ce qui me paraît important sur la façon dont ces organismes doivent gérer le développement? Et je suis arrivé à deux conclusions. Le premier, c'était d'introduire la notion d'équité dans le développement, la notion d'égalité ou d'inégalité dans le développement, quelque chose qui n'était pas du tout considéré par ces organismes, qui n'avaient qu'une seule idée en tête, qui était le produit intérieur brut et la croissance du produit intérieur brut, un point c'est tout, sans regarder la distribution de ce produit dans la population. Donc mon premier message, ça a été de dire, il faut prendre en compte le côté équité, non pas seulement parce que il faut se soucier du sort des plus pauvres, mais aussi parce que dans une société plus équitable, on sera capable de générer un progrès plus rapide. Et bon, ça a été le premier message. Je pense que ce message est passé. Je pense qu'aujourd'hui encore, on continue à parler de l'équité. C'est quelque chose qui est considéré dans les discussions sur le développement. Le deuxième message, c'était de dire qu'il est important d'évaluer. C'est extraordinaire que vous ayez l'expérience de 50 ans de projet de développement. Et quand je pose la question, est-ce que ce projet de route au Maroc a bien fonctionné, ou est-ce que ce projet de mini-centrale solaire au Niger a bien fonctionné, je suis incapable de trouver la réponse sur quel est l'impact de ces programmes sur la pauvreté, quel est l'impact sur l'emploi du temps des mères de famille, etc. etc. Et donc, c'était mon deuxième message. Il faut évaluer correctement ce qui se passe dans cette maison. Les communicateurs m'ont dit, ton premier message est impeccable, pas de problème, on va faire un truc formidable là-dessus. Ton deuxième message, il ne vaut pas un clou, parce que tu vas nous dire que la Banque mondiale ne fait pas les choses au mieux, alors que ce n'est forcément pas vrai, elle fait les choses toujours de façon tout à fait extraordinaire. Donc on oublie ce message-là. Mais finalement, je suis même arrivé à mes fins et j'ai créé des institutions qui, effectivement, sont responsables de l'évaluation. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Ça sert, et c'est la raison aussi pour laquelle ce sont des gens qui viennent de l'extérieur qui prennent ce genre de job, parce que si on vient de l'intérieur, alors on n'apporte rien. Toute l'idée de ces postes, c'est d'amener de nouvelles idées, d'amener du sang neuf, des idées neuves dans l'institution, et puis de faire vivre ces idées. Il y en a certaines qui survivent, il y en a d'autres qui ne survivent pas. L'avenir le dira.
Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la salle. Nous n'avons pas de micro, désolé, alors voilà, il faudrait que vous parliez un peu fort.
Est-ce que je puis me permettre de vous demander, du fait de la dernière phrase que vous avez dite, dites que vous avez parlé d'une évaluation, donc ça impose un certain suivi. Donc ça voudrait dire que quand il y avait, appelons don ou intervention, enfin peu importe le terme que l'on donne à la démarche de la Banque mondiale, cela veut dire qu'il n'y avait pas un suivi, je ne dis pas peut-être très strict, mais enfin un style de suivi pour savoir ce qu'il en résultait de ce que vous aviez donné, que ce soit ponctuel parce qu'il y avait une catastrophe monumentale ou parce que c'était un pays qui était très 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 pauvre et qu'il fallait quand même le sortir un minimum de l'ornière. Donc ces gens-là, enfin si je puis me permettre, ces économistes qui vous ont répondu ça, ils n'ont pas, en somme, pris en compte que sans suivi, on ne peut pas savoir où va l'argent, donc c'est là où commence la corruption, pas à mon point de vue. Je ne suis pas du tout économiste et je suis toute petite par rapport à toutes les personnes qui sont là, mais ça me paraît être une logique presque enfantine.
Non, vous avez tout à fait raison. Il existait une évaluation qui est une évaluation purement administrative. C'est-à-dire que quand un projet consistait à construire 50 km de route rurale dans une partie montagneuse de l'Éthiopie, évidemment, à la fin, on a bien construit les 50 km, ça nous a coûté tant, on a dépensé, on est resté dans notre budget, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il y avait une évaluation. L'évaluation dont je parle, c'est une évaluation de l'impact de ce projet sur le développement. Et pour arriver à mesurer cet impact, il vous faut de l'information dès le départ. Par exemple, vous faites une route, vous les dites, bon, finalement, à cause de la route, les gens vont pouvoir se mobiliser plus facilement. Si jamais il y a un problème de santé, on va pouvoir envoyer les gens rapidement dans la clinique locale. La mortalité maternelle devrait diminuer à cause de ça. Mais pour le faire, il vous faut de l'information avant qu'on construise la route rurale. Et puis, un petit peu de temps après, quand elle est passée dans les mœurs de la population. Et donc, on doit faire des enquêtes avant et des enquêtes après. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas fait de façon systématique. Et plutôt parce que, je dirais, les agents, les bureaucrates responsables de l'administration de ce genre de projet n'avaient pas en tête ce type d'évaluation. Mais les économistes, en tout cas les économistes qui faisaient partie du département de la recherche, étaient absolument persuadés que c'était tout à fait nécessaire. Plus que ça était nécessaire. Il était nécessaire aussi, dans certains cas, d'obtenir de l'information avant-après un programme, mais non seulement avant-après dans la localité où le programme avait été mis en œuvre, mais aussi dans des zones témoins, pour voir si ça faisait une différence ou si ça ne faisait pas de différence. Donc, ce qu'on a lancé avec cette idée de faire de l'évaluation systématique, c'est ça. C'est de multiplier ce genre d'évaluation. Alors, dans certains cas, c'est très difficile. Dans certains cas, c'est pas commode. Vous n'allez pas évaluer de cette façon-là une politique de réforme des droits de douane, une chose comme ça. Mais dès qu'il s'agit de choses microéconomiques, c'est possible de le faire. L'un des problèmes, c'est que ça coûte aussi un petit peu d'argent. Et donc, les responsables de projet nous disaient, c'est bien joli votre histoire, mais qui va payer pour ça? Et vous avez aussi le problème qu'il faut organiser de la collecte d'informations ex ante, tout de suite, avant que le projet démarre. Il faut organiser la collecte d'informations une fois que le projet est fini. Règle de la bureaucratie, vous n'êtes pas du tout sûr que la personne qui est responsable du projet va rester encore pendant un an ou deux ans dans le pays et va être toujours là pour gérer une nouvelle enquête. Donc il faut que tout ça soit complètement planifié, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire de l'évaluation absolument partout. Mais je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais j'aime beaucoup votre analogie avec la corruption. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, mais d'un autre côté, si je prends l'exemple de notre pays, il y a beaucoup d'interventions de ce type-là qui ne sont absolument pas évaluées. Et un des efforts qu'on essaye de faire à l'École de l'économie de Paris, dont on a parlé aujourd'hui, durant la journée, c'est effectivement de faire des progrès dans cette direction. Et la loi qui est passée et qui force à une évaluation de tous les programmes sociaux me semble être quelque chose d'extraordinairement important. L'Assemblée nationale vient de lancer un grand appel d'offres dans lequel vont soumissionner des gens qui vont être en charge de réaliser l'évaluation de toute une série de projets que l'Assemblée nationale veut pouvoir utiliser dans la discussion avec le gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin, mais voilà, tout ça est progressif.
Ce serait une politique que vous avez abordée. Première manière un peu globale, qui serait prendre ça sous la forme économie politique, prendre en compte éventuellement des intérêts avec que certains pays ou certaines organisations soient intervenir dans le développement. Je pense que en fait on ne comprend peut-être pas grand chose à la dire et à toutes ces institutions internationales si on oublie aussi de rappeler le contexte politique de l'époque. Enfin, on a parlé l'équilibre, là, voilà. Bon, alors, moi, je veux bien en parler, la question des inégalités, etc. Je suis pas complètement sûr que ce soit, l'objectif premier des accords de Bâton Rouge qui met en place ce système-là, des accords de Bâton Rouge, pour vocation de réexister, en gros, de réinstaller un système capitaliste après la guerre, dans un contexte, parce qu'on parle de la guerre froide, hein, en gros, on commence à comprendre qu'il y a vraiment une explosive à ce moment-là, et la dire très clairement, les unis aussi, l'OMC, en vrai, vont s'installer dans ce type d'économie politique, on peut le formuler comme ça, ou de relation de domination à l'échelle internationale, enfin, bon, en fonction des analyses politiques qu'on a, on peut mettre les mots qu'on veut. Mais voilà, c'est un premier aspect sur lequel j'aimerais éventuellement que vous reveniez, il y a quand même le temps. L'autre aspect, c'est pour compléter la question de Clément, en fait. L'autre manière de voir cette dimension politique et l'articulation entre le travail dans l'économie et la dimension politique à l'intérieur de ces institutions, ce serait de revenir un peu plus précisément sur les coulisses de l'institution. Comment les projets sont présentés, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés. Quels sont les critères qui président à ce genre de choses? Éventuellement, quel est le rôle vraiment d'un économiste français? Parce que c'était votre rôle à vous, enfin, c'est pas pour personnaliser les choses, mais est-ce que ça fait partie de la fonction d'un économiste en chef de gérer ce genre de choses? Si oui, selon quel type de critères? Et éventuellement, selon quel type, quelle qualité d'intervention politique? Vous avez parlé à un moment sur l'élection de votre prédécesseur sous la pression de l'actionnaire principal. Voilà, mais quels sont les types d'interventions, éventuellement, les grands pays occidentaux qui financent cette banque et qui vont à un moment pouvoir déterminer ou pas le type de programme qui va être mis en œuvre par la banque. Voilà, c'est les deux dimensions aux associations du politique. Voilà.
Non, je n'ai effectivement pas centré ma présentation sur ces aspects-là des choses, mais il est tout à fait évident, il est parfaitement clair qu'il y a une dimension politique dans l'activité de ces organisations. Et de ce point de vue-là, le fait que pendant relativement longtemps, il y avait une sorte d'opposition entre les organisations de Bretton Woods et les Nations Unies montre bien qu'effectivement, il y avait un côté politique. Les organisations de Bretton Woods étant plutôt dirigées ou sensibles aux opinions des pays les plus riches, et les organisations des Nations Unies étant plus sensibles à l'opinion d'une majorité de pays, et en particulier les non-alignés, etc. Donc cette dimension-là, elle existe, je crois qu'elle a existé relativement longtemps. Il me semble qu'elle est en train de perdre de l'importance avec, d'une part, la restructuration de l'économie mondiale. Il est évident aujourd'hui que dans un organisme comme la Banque mondiale, même si un pays comme la Chine, si on compte, si on regarde le poids qu'elle pèse en termes de voix dans un vote, c'est relativement limité. L'influence effective du représentant de l'administrateur chinois dans le conseil d'administration de la banque est absolument considérable. On voit, on sent le rééquilibrage de l'économie mondiale qui a lieu par le pouvoir ou l'influence des différents administrateurs au sein du conseil d'administration. Mais de la même façon que lors de Bretton Woods, l'idée était effectivement de développer, de favoriser la reconstruction, de favoriser le développement. Je fais remarquer aussi que AIDA, l'Association nationale du développement, est née en 1960, au moment de la décolonisation, au moment de l'indépendance de la plupart des pays des anciennes colonies. Il est bien évident que ça a quelque chose à voir avec la guerre froide, avec l'équilibre Est-Ouest, etc. Donc ça, ce n'est pas quelque chose à nier. Maintenant, je pense que j'ai insisté peut-être beaucoup plus sur la façon dont peut-être à l'intérieur de ce groupe-là, les questions de développement ont été traitées. Il y avait, que ce soit, j'en ai parlé il y a un instant, que ce soit pour des raisons purement d'économie politique, ou que ce soit pour des raisons purement altruiste, le développement était quelque chose d'important. Et c'était un objectif de ces organismes d'arriver à générer du développement là où il n'y en avait pas, ne serait-ce que pour éviter le basculement dans le partage Est-Ouest d'un certain nombre de pays dans le clan, dans le bloc opposé. Donc, j'ai plutôt parlé de cet aspect-là des choses, de l'efficacité avec laquelle ce développement a été poussé en avant par ces organismes, plutôt que sur les motivations de ces organismes. Cela étant, l'influence politique, elle a été considérable. J'ai parlé, quand j'ai parlé tout à l'heure du consensus de Washington et de l'influence du renversement doctrinal qui a eu lieu aux États-Unis et en Angleterre au début des années 80, ce renversement, il a été présent au conseil d'administration de la Banque mondiale. J'ai beaucoup critiqué les bureaucrates de la Banque mondiale en disant qu'ils avaient adhéré au consensus de Washington de façon un petit peu aveugle, parce que c'était assez facile de suivre des règles qui étaient privatisées, dérégulées, libéralisées, et vous faites forcément quelque chose de bien. C'est assez facile de suivre une règle de ce type-là. Mais il faut voir aussi que dans certains cas, ces règles ou l'application de ces règles ont été imprimées imposées à la banque, aux opérationnels de la banque, par les administrateurs et par la puissance des États-Unis d'un côté, d'une partie de l'Europe de l'autre, etc. De la même façon, quand je parlais de ma propre expérience et que j'ai mis en avant le principe d'équité, il est absolument exact que j'ai eu derrière moi très rapidement la totalité des administrateurs européens et d'un certain nombre de pays en développement en disant oui, c'est absolument fondamental de penser à ça. Et je ne peux pas cacher que l'administrateur américain n'était pas spécialement ravi d'entendre ça. Donc les éléments politiques, oui, ils existent, absolument. Mais j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure du temps, et certainement depuis la fin de la guerre froide, les choses se rééquilibrent. Alors, est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que ça va dans une direction qui n'est pas favorable? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en train de changer. Je me suis trop concentré sur cette première partie. J'ai oublié quelle était la deuxième partie.
C'était sur votre place dans le processus de décision, enfin, je pense, simplement. Sur
oui,
des projets.
Sur les projets. Alors, j'aurais pu le dire aussi. Chaque projet, c'est aussi quelque chose d'extraordinairement long. Chaque projet qui est financé par la Banque mondiale. Un projet pouvant être un programme de réforme macroéconomique. Par exemple, on finance une réforme du commerce international, donc de la gestion des droits de douane, de l'administration des droits de douane, l'administration portuaire, etc. Il y a énormément de programmes de ce type-là qui sont très très loin d'un projet du type construction d'un barrage ou construction d'une voie de chemin de fer. Tous les projets sont validés par le conseil d'administration. Absolument tous. Et avant d'être validés par le conseil d'administration, ils sont évidemment validés par la structure interne de la Banque mondiale. Et dans la structure interne, l'économiste en chef ou l'équipe de l'économiste en chef intervient et donne son opinion sur chacun des projets qui est financé par la Banque mondiale. Et c'est ça qui explique qu'effectivement, autour de l'économiste en chef, on a besoin d'une certaine équipe parce qu'il n'est pas question pour une seule personne de regarder dans le détail des projets qui sont décrits chacun avec une cinquantaine, une centaine de pages et touchent à des pays extraordinairement divers. Donc on a une équipe qui s'occupe de ça. Et évidemment, il est important avec les membres de cette équipe de décider d'une grille de lecture, d'une grille de validation de ces différents projets. Et dans plusieurs cas, je suis intervenu en disant ce projet ne me semble pas très bien ficelé, ne me semble pas tout à fait la chance qu'il aboutisse aux objectifs qui ont été indiqués relativement faibles, ou de temps en temps les objectifs ne semblent pas bons. Mais ça signifie qu'avant d'arriver à l'étape de validation, très souvent, on était saisi de projets, des discussions qu'on avait avec les responsables de pays. Une des grandes occupations aussi de l'économiste en chef, c'est aussi c'est pas désagréable, c'est de se promener dans le monde et d'aller visiter les pays. C'est assez extraordinaire parce que on se rend compte que de l'extraordinaire diversité des pays, de l'extraordinaire diversité des questions qui se posent. Mais à cette occasion-là, on a donc des contacts avec les équipes locales et on peut discuter du type de projet qu'ils ont en tête et de la motivation de ces projets et des modalités de ces projets. Je voudrais terminer avec une remarque générale, j'aurais dû faire à la fin de ma présentation, qui est le fait que c'est les voyages que j'ai pu faire qui y font penser. J'étais extraordinairement, et ça se relie complètement à la profession d'économiste, je veux dire que j'étais incroyablement frappé par le fait que, en étant exposé aux problèmes réels des économies en développement, en discutant avec les premiers ministres, avec les ministres d'économie, avec les présidents, avec les responsables locaux de la Banque mondiale, avec la société civile dans ces pays-là, on arrive avec une certaine aura et une sorte de réputation de sage, et on nous pose des tas de questions en disant « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire cela? Donnez-nous un conseil là-dessus, donnez-nous un conseil là-dessus. » Et je veux dire que j'étais absolument impressionné par le peu que nous connaissons comme économistes, le peu de savoir que nous avons pour répondre à toutes ces questions. C'est absolument extraordinaire. On a le sentiment qu'on a accumulé dans la discipline une réflexion absolument considérable. C'est vrai que cette réflexion, la plupart du temps, nous donne une grille pour lire des problèmes. Mais maintenant, une fois qu'on a lu le problème, qu'on a à peu près compris quelle en était la nature, donner un conseil, donner une solution, c'est une autre paire de manches. Et je crois que, en tout cas dans mon cas, cette expérience m'a appris l'humilité par rapport à la discipline. Voilà ce que je voulais dire.